La semaine aura surtout été marquée par l'Algérie et le Mali, deux pays encore aujourd'hui, bien sûr, au cœur de l'actualité. Une prise d'otage qui tourne mal et une intervention française qui piétine. Commençons par l'Algérie, au-delà du bilan des morts, des survivants, dans l'intervention de l'armée algérienne pour libérer des otages retenus par un groupe islamiste proche d'Al-Qaïda. La question est bien de savoir pourquoi l'Algérie a agi aussi vite, dans la précipitation. Abderrahim Kader, chercheur associé à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, nous livrait vendredi son analyse.
Il n'était absolument pas question pour les autorités algériennes d'attendre qu'une pression diplomatique ou sécuritaire s'exerce sur eux. Donc ils n'ont pas voulu attendre et ils ont pris immédiatement l'option d'intervenir. Il faut rappeler que c'est la première fois qu'un groupe islamiste armé attaque un lieu qui était quasiment sanctuarisé parce que c'est quand même le poumon économique du pays. Et même dans la décennie noire des années 90, aucun groupe armé ne s'était jamais attaqué à un site pétrolier ou gazier. Donc ça, c'est quand même une première.
Au Mali, pendant ce temps, toute la semaine, l'intervention des troupes françaises avait quelque mal à repousser vers le nord du pays des forces islamistes qui, bien armées, résistaient. Lundi dernier, on se demandait déjà si ce conflit était inévitable pour la France avec Marc-Antoine Pérouse de Monclos, politologue et chargé de recherche au Centre Population et Développement à l'Université Paris-Descartes.
On veut rétablir la souveraineté du Mali, mais de quel Mali dans le nord? En l'occurrence, celle du gouvernement à Bamako, qui est un gouvernement non élu, qui en fait est l'aboutissement d'un putsch qui date de l'année dernière, avec des mutins qui sont retranchés dans la base de Kati à Bamako, et qui concrètement continuent de tenir les rênes du pouvoir. Avec donc ce paradoxe qui est de voir le gouvernement Hollande, qui s'est clairement inscrit contre la France-Afrique et contre les procédés d'autrefois qui visaient à soutenir les dictatures, mais qui aujourd'hui, concrètement, agit dans le sens d'un renforcement d'un gouvernement extrêmement fragile où des militaires putschistes continuent d'avoir un peu la mainmise sur ce qui se passe à Bamako.
Et cela nous aurait presque fait oublier le conflit en cours en Syrie, violent chaque jour avec son lot de morts civiles. L'ONG Human Rights Watch dénonçait notamment le recours fréquent par l'armée de terre syrienne aux bombes à sous-munitions. Nadim Houri, le responsable de HRW au Liban, nous disait craindre pour les populations du nord du pays.
Et il y a une situation humanitaire dans le nord, une situation de crise. Des villages qui sont coupés d'électricité pendant des mois, un froid atroce, des gens qui sont revenus à des moyens mais basiques pour survivre, pas pour vivre, mais pour survivre. Des villages qui sont bombardés par l'air régulièrement, pratiquement tous les jours, d'une manière indiscriminée. Donc les gens vivent dans la peur qui va leur venir du ciel. Deuxièmement, autour de Damas, des zones de guerre, notamment les banlieues sud où les rebelles sont assez présents, mais le gouvernement syrien est en train de répondre avec une férocité qu'on a vu à Homs avant, qu'on a vu à Alep, qui est en train de pousser des dizaines de milliers de gens à se déplacer. Donc une crise qui est en train de croître tous les jours, qui est en train de prendre des dimensions tragiques, avec plus de 2 millions déplacés à l'intérieur de la Syrie, des centaines de milliers à l'extérieur, et une communauté internationale comme ça impuissante.
Violence encore, mais au Mexique cette fois, où même la capitale n'échappe plus à la vague d'homicides qui frappe le pays depuis des mois. Selon le procureur de la ville, ces meurtres ne seraient pas liés au crime organisé. Une vision que ne partageait pas pourtant David Recondo, chargé de recherche à Sciences Po Paris, détaché à Mexico.
C'est quand même très lié aux bandes criminelles qui sont rivales en fait et qui sont en compétition pour contrôler le territoire aussi bien dans la ville de Mexico, ce qu'on appelle ici le district fédéral, et l'État de Mexico qui entoure ce district fédéral. Il faut prendre ça comme un avertissement. Aucun territoire, aucun lieu dans ce pays n'est finalement complètement protégé de ce genre d'évolution.
Nous parlions aussi de l'Inde et du scandale que continue de représenter la situation des Dalits, qu'on appelle aussi les intouchables, les exclus du système des castes. Jackie Jouan, président de l'association Salem, qui parraine de jeunes Dalits en Inde, nous parlait de cette exclusion.
Ce sont les gens qui sont au service des autres, au service des trois castes principales. Ils travaillent pour survivre, ils travaillent pour les autres. On travaille beaucoup parmi les travailleurs agricoles. Depuis maintenant 4 ans, on voit une évolution très importante. Alors si on connaît bien l'évolution économique en Inde, ça se répercute dans les milieux pauvres et leurs conditions s'améliorent. Il n'en reste pas moins qu'ils vivent encore dans des conditions quand même de pauvreté réelle.
Et dans l'extrême nord de la Birmanie, à la frontière avec la Chine, le cessez-le-feu, on le sait, entre les rebelles cachines et les autorités a volé en éclats il y a plus d'un an déjà, un an et demi. Les combats sont depuis réguliers, mais ils ont doublé d'intensité ces derniers jours. Mireille Boisson voyait là la preuve d'une faiblesse du gouvernement civil au pouvoir depuis deux ans. Elle coordonne les projets d'Amnesty France sur le Myanmar. Elle nous expliquait.
L'armée birmane n'obéit pas au président du Myanmar, à Thein Sein. Parce que Thein Sein veut la paix et Thein Sein a demandé depuis plusieurs semaines l'arrêt des combats. Parce que tant qu'il y a des combats en région Kachine, il est difficile de finaliser la paix avec d'autres groupes ethniques qui disent la paix, c'est quand il y aura la fin des combats partout. Il y a eu des remaniements il y a quelques mois. Dans les cadres de l'armée, il y a eu des mises à la retraite d'office en nommant des officiers plus jeunes. Mais visiblement, là, ils donnent des ordres qui ne sont pas suivis des faits.